Alors je salue tous ceux qui sont de retour et puis voilà, de quelques-uns qui nous font la bonne surprise d'être là aujourd'hui et qui ne l'étaient pas habituellement. Donc voilà, bienvenue à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse et que nous soyons édifiés ensemble comme nous avons commencé de le faire. Alors personnellement, ce que notre frère a apporté, vraiment, je trouve, me touche profondément, que Dieu ait laissé ce témoignage. Qui d'autre que Dieu peut avoir fait cela que de laisser une page de sa parole ouverte sur ce message, dans ce contexte, et que cela soit gardé dans un musée maintenant. Voilà, chaque personne qui sera placée devant ce témoignage sera nécessairement interpellée concernant le véritable message de la parole de Dieu. Au prix donc de la mort, au prix de la mort de Christ, et parfois au prix de la mort des saints, c'est ainsi que Dieu révèle son amour. Ce n'est pas un amour facile, ce n'est pas un amour comme on appelle à l'eau de rose, c'est l'amour qui engage tout, et c'est l'amour qui surmonte, justement, et qui donne la victoire sur la mort. Et cela nous vient de Jésus-Christ. Et je voulais seulement rappeler, moi, ce matin, sur quoi repose notre foi. Eh bien, notre foi repose entièrement sur Jésus-Christ. Il y a ce verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il y a l'expression du temps dans ce passage, parce que en créant le monde, eh bien, notre Seigneur a aussi créé le temps, l'espace-temps, ça va ensemble. Et voilà, dès l'instant où il y a eu création, il y a le temps qui passe, il y a un hier, il y a un aujourd'hui, il y a un demain. Et dans toutes ces dimensions du temps, Jésus-Christ est là, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette parole, elle est donnée assez curieusement voilà, au milieu d'un passage avec beaucoup d'exhortations concernant la vie chrétienne. Et je vous lis le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et puis le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Eh bien, je trouve intéressant que le verset qui précède nous parle des personnes, des serviteurs, de ceux qui ont reçu, qui ont été fidèles donc, au Seigneur, qui ont connu le Seigneur personnellement et dont la fin de leur vie montre que ça les engageait totalement, qui ont certainement, pour certains, donc c'est allusion au fait que certains, justement, soient morts martyrs pour leur foi. En tout cas, ils ont été jusqu'au bout. Donc, ce verset qui nous dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il a été donc reçu, porté par des hommes. Il y a des hommes qui ont vécu en relation avec Jésus-Christ. Mais le verset qui suit nous parle plus des hommes, mais de l'enseignement, de la doctrine. La doctrine qui est, elle aussi, apportée et fixée, et qui est une doctrine spécifique à l'Évangile, qui ne peut pas être remodelé, qui ne peut pas être changé, qui ne peut pas être travaillé autrement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Jésus-Christ est le même et sa doctrine est la même. Et Jésus-Christ est le même et il a toujours besoin de personnes qui le connaissent et qui s'engagent avec lui. La même et unique doctrine permettra à des hommes fidèles de rendre témoignage indéfiniment de Jésus-Christ qui ne change pas. C'est le même Jésus-Christ pour nous aujourd'hui que pour les apôtres. Mais c'était déjà le même Jésus-Christ pour les prophètes, alors qu'il n'était pas encore venu en chair, en esprit, par l'esprit. Ils avaient déjà connaissance, non pas de façon parfaite, mais ils avaient déjà connaissance de certains aspects de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier. Hier parce que tout a commencé, parce que le monde a commencé, la création avec Jésus-Christ. Dans la même épître aux Hébreux, en fait, le début de cette épître, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel aussi il a créé le monde. Dans ma traduction ici, l'univers, les siècles. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ici, il y a tout ce qui concerne Jésus-Christ hier. Jésus-Christ créateur, Jésus-Christ rédempteur, Jésus-Christ glorifié. Tout cela s'est fait. Hier, Dieu a créé le monde par Jésus-Christ, par son Fils. Au verset donc 8, il est dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Au sujet du Fils, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Hier, Dieu a créé les cieux et la terre par son Fils. Et de là, il a créé l'homme à son image. Et puis, il a dû racheter l'homme et donc donner ce Fils pour faire la purification des péchés. Et une fois cette purification des péchés accomplie, il a élevé ce Fils dans la gloire. Tout cela s'est fait. C'est fait, c'était hier dans l'histoire, mais c'était déjà hier avant même que le monde soit créé, parce que c'était dans la pensée de Dieu, parce que c'était dans le projet de Dieu avant que le monde existe. Je vous lis juste deux référence à ce sujet, dans Éphésiens au chapitre 1, verset 4, il est dit que nous bénissons le Seigneur en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il nous a prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Et dans l'épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, alors, il faut prendre à partir du verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la manière de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, Dieu qui a créé le monde par Jésus-Christ, mais avant même d'avoir créé le monde par Jésus-Christ, il avait conçu que ce Fils bien-aimé serait offert en sacrifice d'expiation pour le péché de l'humanité, pour l'homme qu'il voulait à son image, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc Jésus-Christ était non seulement créateur, mais était déjà l'expression de l'amour parfait de Dieu et du salut de Dieu avant même que le monde soit. Et donc Jésus-Christ est venu et il a tout accompli pour que la volonté de Dieu d'avoir un être à son image avec lequel il soit en communion, qui puisse refléter sa gloire, et bien que cela advienne par la création qu'il avait faite. Jésus-Christ créateur, Jésus-Christ rédempteur, Jésus-Christ nouvelle création de Dieu, c'est fait. C'est réalisé. Et même si l'humanité maintenant actuellement disparaissait, il y a déjà auprès de Dieu une nouvelle humanité créée en Jésus-Christ qui respire, on peut dire, la gloire de Dieu. C'est fait. Et aujourd'hui, que fait Jésus-Christ? Que continue-t-il à faire? Eh bien, ce qu'il a fait hier lui permet d'être à l'œuvre dans nos vies pour se révéler, pour nous révéler la justice et l'amour du Père et nous rendre participants de lui. Et aujourd'hui, c'est le moment, le temps du salut de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de la grâce, le temps où Dieu appelle, le temps où Dieu fait bénéficier à tous ses élus, à tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui, il leur fait bénéficier de l'œuvre accomplie, de ce qui est en Jésus-Christ, création, rédemption, vie nouvelle, espérance de la gloire. Tout cela, Dieu nous le présente aujourd'hui par le Saint-Esprit, par lequel l'Évangile est prêché, selon ce qui est révélé dans les Écritures. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour appeler et pour révéler Jésus-Christ dans le cœur des croyants. De sorte que Paul peut dire, Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous vivons maintenant dans l'espérance de la gloire à cause de Jésus-Christ qui est notre Créateur et notre Sauveur. C'est ce que fait Jésus-Christ, il applique aujourd'hui ce qu'il a réalisé dans la création et à sa mort sur la croix. Il nous en rend participants, il nous met au bénéfice, il appelle et il rassemble en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. C'est pour cela qu'il a donné sa vie, c'est son œuvre actuelle. L'œuvre actuelle de Jésus-Christ, elle n'est pas différente de ce qu'il a fait, mais c'est la répercussion dans nos vies, dans l'humanité tout entière, dans toutes les tribus de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, parce que de toute tribu, des hommes, des femmes, auront reçu le témoignage de l'amour et de la justice de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et puis, éternellement, parce que rien de ce que nous avons reçu de lui ne sera perdu dans les siècles à venir. Absolument rien. Tout ce que Dieu fait en Jésus-Christ est définitif, est rendu parfait. Et pour l'éternité, la vie nouvelle que nous avons en lui n'aura pas de fin. Lui qui nous aura créés et engendrés nous gardera éternellement au bénéfice de sa vie et de sa justice. Et cela sera manifesté par la résurrection d'entre les morts, par la glorification des saints, et ça n'aura pas de fin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et n'est pas dit « et demain », hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement, nous bénéficierons de la communion avec Dieu par l'œuvre qui a été accomplie en Jésus-Christ. Pour Dieu, Jésus-Christ est le même. Parce qu'il met en œuvre, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en œuvre les intentions du Père, les intentions de Dieu. Dès le commencement, il a été en plein accord avec le Père pour mettre en œuvre le projet du Père. Donc Jésus-Christ est le même pour Dieu. Il est toujours fidèle à la mission que le Père lui a confiée. Et le Père peut avoir éternellement confiance en son Fils. Et puis, Jésus-Christ est le même éternellement pour nous, à qui il fait bénéficier de toute la plénitude de Dieu. C'est cela qui est annoncé, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est fidèle éternellement envers nous, dont il fait bénéficier de la plénitude de Dieu. Et puis je dirais que Jésus-Christ est éternellement le même envers lui-même, dans le sens où il est dans la satisfaction permanente d'être médiateur entre Dieu et les hommes. C'est sa joie, c'est son plaisir, c'est sa satisfaction que d'être ce lien parfait entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ n'a jamais regretté, en quelque sorte, une seule seconde de faire le lien qui fait qu'il a dû donner sa vie, d'être ce sacrifice par lequel nous avons accès au Père, par lequel le Père peut nous ramener à lui. Jésus-Christ est pleinement satisfait et il voulait, quand il était sur cette terre au moment de la croix, retrouver justement la joie qu'il avait auprès du Père et la gloire qu'il avait avant le commencement. Et maintenant, il a retrouvé cette joie. Alors, élevons-nous dans la compréhension de ce que Jésus-Christ est, afin de mieux participer à sa louange et de mieux vivre toutes les circonstances de nos vies à la lumière de l'éternité. Donc, passage en question, Hébreux 13, contient donc un certain nombre d'exhortations concernant la vie chrétienne, concernant l'hospitalité, concernant le souci de ceux qui sont prisonniers ou maltraités, concernant le mariage, concernant le rapport à l'argent. Puis ensuite, amène au sujet de la doctrine à louer, à entrer dans un esprit de louange et d'adoration du Seigneur, d'offrir non plus des sacrifices d'animaux, mais les sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et puis un autre genre de sacrifice, la bienfaisance et la libéralité que le Seigneur nous appelle à avoir. Et puis encore une autre forme de sacrifice, on peut dire, l'obéissance au conducteur, de ceux qui veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Alors tout cela, eh bien, nous pouvons progresser dans ces domaines de la vie chrétienne, morale et spirituelle, par une meilleure connaissance de Jésus-Christ, en sachant que le Jésus-Christ qui a été à l'œuvre dans le passé, il est toujours à l'œuvre, et dans toute l'histoire, il est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et nous pouvons rendre témoignage de cela En discutant à la braderie, une dame qui passait comme cela, elle voit les livres chrétiens. Elle dit, oh, tout cela, bon, j'en suis revenu de tout ça. Alors je l'interpelle, bah, dites-moi, ça m'intéresse. Mais elle passait, elle continuait à marcher tout en disant cela. Et c'est dommage parce que les personnes, dans ces cas-là, on ne peut pas avoir de conversation véritable. Mais voilà, avant de continuer encore son chemin, elle dit, bah oui, les religions, tout ça, maintenant, ça a donné tellement de guerres, et de choses atroces. Voilà, on ne peut plus avoir confiance. Mais tous ceux qui découvrent Jésus-Christ lui-même, ben, découvrent bien autre chose que ces conflits et ces guerres de religion. Dieu est amour, et ça demeure. Et quand on entre dans une relation véritable avec Dieu, eh bien, ce qui a été témoigné justement, on entre dans une autre relation aussi avec notre prochain. Et on devient donc les porteurs de l'amour et de la grâce de Dieu dans ce monde. Et c'est quand même une calomnie que de dire que les religions ont amené les guerres. Parce que les guerres existent en dehors des religions, d'une part. Et d'autre part, combien de chrétiens ont rendu témoignage au cours des siècles des bontés du Seigneur et ont vécu totalement au service de leurs prochains. On peut regarder les choses sous un certain angle, mais on peut aussi les regarder sous l'angle de toutes les bénédictions, toutes les grâces, toute la bonté, toute la justice qui a été manifestée sur la terre grâce à l'Évangile. Et donc lorsqu'on découvre vraiment qui est Jésus-Christ, toutes ces questions de guerre, d'injustice, des choses comme ce qui participe à la vie de l'humanité, eh bien, s'efface, parce que nous trouvons la source de la vérité et de la justice. Alors, il y a quelque chose quand même, au début là, de l'épître aux Hébreux, dans le passage que j'ai lu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu as au commencement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains, mais ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Comment Jésus-Christ peut-il être le même dans l'avenir alors que le ciel, les cieux et la terre vont disparaître, vont périr? Les cieux et la terre périront pourtant. Alors moi, cette image qui m'est venue à l'esprit, les cieux et la terre vont périr, peut-être comme l'échafaudage qui est retiré après que l'édifice soit achevé. Cieux et la terre d'à présent, nous sommes l'ouvrage de Dieu, son édifice, nous dit l'apôtre Paul, hein, et en Jésus-Christ tout. Je vais vous lire dans Éphésiens au chapitre 2, versets 21 et 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc nous sommes l'édifice de Dieu. Par l'assistance du Saint-Esprit, Dieu est en train de nous édifier, de nous construire pour être son temple, pour être son habitation. Alors, quand l'apôtre Paul dit aussi, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc voilà, je vois bien cette image de l'échafaudage, tout ce qui a été fait pour l'instant, en fait, dans l'œuvre de la création, participe à la possibilité pour Dieu de s'édifier ce temple spirituel dans lequel il aura toute sa place. Et lorsque le temple sera construit, parfait, eh bien, l'échafaudage pourra être enlevé. Le but et la réalité des choses demeureront éternellement par Jésus-Christ, qui sera toujours le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vraiment cela qui est le fondement de notre foi. Amen.